On joue toujours une game. Éric Auziel, salut.
Allô les boys, ça va bien?
Très bien. Très, toi-même, très comment bien. Vas-tu, mon beau garçon?
Ça va bien. Malheureusement, les prochaines journées vont faire en sorte qu'en Amérique du Nord, le taux d'inflation va augmenter avec la période des agents libres dans le basket et dans le hockey.
Ouais, c'est ça. Hein?
Ça s'en vient.
C'est ça. On est là-dedans.
On va surpayer pour des athlètes en majorité qui ne donneront pas exactement les résultats attendus, mais c'est ça. C'est ça la game.
Oui, c'est ça la game. Là. Mais ça commence déjà, Eric. Il y a déjà des contrats qui sont donnés. Déjà. Aïe, aïe, aïe.
Ouais.
Mais c'est ça le piège du 1er juillet. C'est ça le piège à partir de demain. C'est de voir des joueurs être payés, être grassement payés pour ce qu'ils valent réellement. Ça s'en vient.
Ouais. Ouais. Mais c'est parce que tout le monde a une chance de gagner maintenant. Et tout le monde veut gagner. Puis on se dit, ben c'est ça qui nous manque. Puis comment ça s'articule à la fin? Ben, il y en a juste une équipe qui gagne. Puis ce sont les équipes qui... Ça prend de la chance, naturellement.
Oui.
Puis il faut qu'il y ait une chimie avec les joueurs engagés.
D'abord.
Tu sais, ça prend de la chance, on va se le dire.
Ben ouais, il faut que tu sois épargné par les blessures. Ça prend de la chance. Oui. Ça prend une chimie au sein de l'équipe. Tu vas avoir juste les meilleurs joueurs de la ligue. Ouais. Si ces gars-là ne s'entendent pas bien ensemble, tu ne gagneras pas.
Exactement. Fait que c'est la structure qui est faite comme ça. Puis c'est pas seulement dans le sport nord-américain, là. C'est partout. Les transferts au soccer, c'est dans tout le sport. Et maintenant, c'est l'argent qui parle en premier. Puis quand tu as le pouvoir, tu sais, ces athlètes-là, là, ça va leur arriver une fois ou deux dans leur vie où ils vont pouvoir négocier un contrat puis assurer leur avenir. Tu vas me dire, combien tu as besoin d'argent pour assurer leur avenir? C'est pas ça la question. Je veux dire, les grands chanteurs font des milliards de dollars parce qu'ils sont les plus connus puis sont les plus talentueux. Fait que c'est l'offre et la demande. Et puis, c'est les meilleurs joueurs de hockey au monde. Puis ils ont un pouvoir présentement de dire, moi, je veux tant, tu as besoin de moi, puis c'est ça, les conditions. Fait qu'on soit d'accord ou pas, c'est pas ça la question, là, tu sais. La question, c'est que comment tu dépenses cet argent-là, surtout que maintenant, la masse salariale augmente, donc on a un petit peu plus de flexibilité. Fait qu'on se dit, c'est la pièce qui nous manque, ça nous prend ce joueur-là. Puis cette année, il n'y en a pas autant. Puis il y a maintenant aussi la nouvelle donnée où on semble être beaucoup plus attiré aussi par les joueurs agents libres avec restrictions. Moi, celui que j'aurais rêvé de voir à Montréal, c'était Matthew Knight.
Ouais.
J'avais pas d'illusion, mais toute l'année, j'ai dit, s'il y en a un athlète qui risque de faire sauter la banque en tant que joueur agent libre avec restriction, c'est Matthew Knight. On l'a vu dans les séries. C'est pas un joueur de centre, j'en conviens, mais c'est ça, clairement un top 6 dans une organisation. C'est un gars qui a exactement le profil que toutes les équipes recherchent à la Sam Bennett. C'est un gars qui a de la résilience, qui a de la tenacité, qui a du talent et il est jeune. Mais Toronto voulait pas perdre Matthew Knight.
Non, puis c'est un bon contrat dans le cas de Matthew Knight. Le 7,75 millions par saison pour 6 ans. Je pensais que Matthew Knight allait signer en haut de 8 millions. Alors, c'est une bonne nouvelle pour les Leafs.
Oui.
Et regarde, là, ils ont signé Tavares Arabet la semaine dernière. Là, ils signent Matthew Knight avec un contrat qui fait énormément de sens pour les Leafs de Toronto. Alors, d'après moi, les Leafs, là, demain, ils vont être à surveiller. Est-ce qu'on va tenter d'aller chercher un Brad Marchand sur le marché? On va être très actif parce que là, Mitch Marner s'en va chez les Leafs de Toronto. Alors, c'est une équipe qui va être à surveiller, les Leafs demain, Eric.
Oui, exactement. Puis selon les rumeurs, ben ça serait peut-être Vegas pour Marner en échange de qui? Bon, il y a différents noms qui... Mais tu sais, Vegas, il y aura un film qui va être fait sur Vegas dans quelques années, un jour, là, avec ce qu'ils ont accompli pour rentrer dans la Ligue nationale. S'il y a une équipe qui est agressive, qui n'a pas peur d'agir, qui n'a pas peur de faire des transactions, c'était Vegas. Je veux dire, moi, de souvenir, une équipe d'expansion qui a eu autant d'impact lors de son arrivée, à part nécessairement le nom ou la couleur du chandail ou peu importe, mais vraiment sur la glace, tu sais, même le Kraken ne s'approche pas de ce que Vegas a fait.
Non, mais là, chez les Golden Knights, là, pour l'information, là, Alex Pietrangelo, qui coûte 8,8 millions par saison, ça a été annoncé qu'il va avoir des opérations cet été. Il va rater l'entièreté de la prochaine saison. Ouais, ça libère 8,8 sur la masse, mais on parle d'un défenseur élite, Pietrangelo, un peu vieillissant, mais... Moi, cette tangente-là, ça ressemble drôlement à une fin de carrière dans le cas d'Alex Pietrangelo à l'âge où il est rendu. Ça me fait penser un peu à la situation de Shea Weber avec le Canadien à l'époque. Alors, c'est un dossier à surveiller, mais ça libère de la masse quand même pour les Golden Knights pour faire une grosse acquisition durant la saison morte.
Mitch Marner. L'usure, mon ami. L'usure. Ouais.
L'usure du temps.
L'usure des matchs à répétition, des gars qui n'ont jamais triché, qui ont toujours donné tout ce qu'ils avaient physiquement à leur corps, l'usure. Et il y en a qui sont épargnés, il y en a qui ont des super carrières. Andy Kopitar en est un. Et puis on vient à l'élément chance. Tu comprends? Tu peux faire tout ce que tu dois faire à la lettre. la discipline impeccable. T'sais, mais il y a des Shea Weber puis des Pietrangelo qui éventuellement l'usure fait en sorte que tu finis pas la carrière comme tu aurais voulu. Carey Price. Quelle tristesse dans le cas de Carey Price.
Ça, c'est certain. Ton sujet numéro un, évidemment, Noah Dobson, on n'a plus besoin d'en parler. Je pense qu'on a fait le tour de la question. Là.
Les gens
savent ce qui s'est passé. Là. La dernière fois que le CH a transigé pour un joueur d'exception à 25 ans, ce n'est pas Jonathan Drouin.
Non.
C'est qui?
Tu sais, j'ai essayé de regarder un comparatif. Patrick Laine est arrivé avec le Canadien à 26 ans. Patrick Laine est arrivé avec des attentes, je te dirais pas démesurées, mais pas des grandes attentes. Un gars de talent. Aucun doute.
Ouais.
Tu sais, Kovalev est arrivé ici à Montréal, mais Kovalev avait passé 30 ans quand il est arrivé ici. Jonathan avait 22 ans, mais Jonathan arrivait avec, je te dirais, un bagage. Et il y avait aussi une raison, on avait vraiment besoin d'un joueur de centre. On a donné Sergachev, qui n'était pas encore un joueur de la Ligue nationale. Puis Jonathan n'a pas eu, je te dirais, exactement l'impact qu'on attendait de Jonathan Drouin. Mais pour moi, le dernier gars, puis peut-être que les auditeurs vont être en désaccord avec moi, qui a eu un impact au même âge que Dobson, c'est en 92, au mois d'août 92, c'est Vincent Danfous. Vincent avait 25 ans. Il est arrivé à Montréal. C'est l'année où ils ont gagné la Coupe Stanley. Je ne suis pas en train de dire que Noah Dobson va amener la Coupe Stanley cette année. Ce n'est pas ce que je dis. Mais Noah Dobson est un joueur établi à 25 ans. C'est un superstar national. Ce que Danfous était. Ouais. Danfous avait commencé à Toronto. Il avait été échangé contre, je ferai rappeler à tout le monde, Glenn Anderson, Greg Berube et Grant Fuhr à Edmonton. Puis finalement, il est venu un an après, il est venu à Montréal. Ça a été une des pièces importantes pour l'organisation du Canadien. Puis Vincent est un joueur d'un point par match. Alors, j'essaie de me rappeler, tu sais, on a eu des agents libres, on a des joueurs qui sont venus ici, mais à cet âge-là, en pleine possession de leurs moyens, qui commencent, je te dirais, les meilleures années de leur carrière, moi, c'est Danfous que peut faire un comparatif. C'est pas la même position. Danfous, c'est un joueur de centre, mais c'est quand même Dobson qui est un gars qui va être top 2 et Danfous devenait ton joueur de centre numéro 1.
Je suis quand même d'accord pour Vincent Danfous. Plus j'y réfléchis à ça, plus je me dis, j'en vois pas d'autres.
Ben, de gars qui ont un impact direct. Venus,
non, non, il y en a d'autres, Thomas, mais...
Des Thomas Vanek, y en a, des gars, tu sais, des
Kovalchuk,
mais c'était pas des gars qui avaient l'impact de Danfous qui est arrivé ici à 25 ans.
Exact.
Tu comprends? Qui a vraiment été important pendant quelques années. Danfous, pour les plus jeunes, c'était tout un joueur de hockey. C'était un gars qui avait été pêché 6e lors de son année de repêchage. À Toronto, il avait été très bon. Peut-être qu'on trouvait peut-être qu'il manquait un petit peu de hargne. Il était très, très bon, Vincent Danfous. À Edmonton, ben, il a fait un an, puis il avait eu plus qu'un point par match. Puis à Montréal, ben, l'histoire s'est écrite après, tu sais. Fait que, je veux dire, ces joueurs-là sont rares. Il y a des circonstances dans le cas de Dobson qu'il n'y avait pas avec Danfous. Dobson, c'était un joueur, c'était un agent libre avec restriction. Les Islanders ne pensaient pas pouvoir le signer. Dans le cas de Danfous, les Oilers voulaient aller chercher un gars comme Shane Corson, qui était quand même un joueur qui avait une valeur, parce qu'on parlait de joueur avec de la ténacité, un gars qui pouvait se battre à ce moment-là, c'était très important, un gars qui était capable de jouer dans des espaces restreints, pas un gars qui avait beaucoup de vitesse, un gars qui avait quand même certaines controverses à l'extérieur de la partie noire avec Montréal. D'ailleurs, la grande erreur que le Canadien a fait, c'est de le ramener quelques années plus tard. Rappelez-vous, quand Corson est revenu, ça n'a pas été concluant de son deuxième passage à Montréal. Fait que, tu sais, bravo aux Canadiens de Montréal pour Dobson. Moi, une chance que j'ai regardé le repêchage de la Ligue nationale en direct, parce que je savais pas que Dobson avait été échangé jusqu'à que Lou Dort arrive sur l'estrade et puis nous l'annonce. Là. Ça, c'était assez ridicule, merci.
Ouais, je ne savais pas.
Non, mais il blague.
C'est une ironie, Ben.
OK, c'est bon, parce que là, OK, merci.
Non. Non, mais c'est parce que, les gars, je l'ai écouté en direct, je savais, on le sait. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a joué le jeu de l'annoncer à l'Amérique du Nord. Tu sais, Lou Dort, ça a été un rôle de figurant, là, tu comprends? Il devait venir nous annoncer une sélection, soit au 16e ou au 17e. Je comprends qu'il était déjà sur place, fait qu'on l'a utilisé. Mais la manière que Batman nous l'a annoncé, c'est qu'on vous annonce en primeur qu'il y a une transaction qui a été complétée alors que ça faisait plusieurs heures qu'elle avait été annoncée. Ceci étant dit, je ne veux pas faire un long préambule sur le repêchage national. Moi, je leur donnerais une deuxième chance. Ça n'a pas été concluant pour moi, mais je leur donnerais une deuxième chance pour voir s'ils peuvent améliorer certaines affaires.
Oui, mais ça ne reviendra pas dans cette formule-là, d'après moi, Eric. Là, on va revoter pour que ça revienne à l'ancienne
exact.
Méthode.
Il n'y avait pas d'ambiance. On a essayé des trucs, mais je pense que tout le monde en a amplement parlé.
Oh ouais.
C'était un beau clin d'œil, Lou Dort, là. Tu comprends, c'est un beau clin d'œil, mais bon, c'est ça. Alors,
mais on l'a, tu sais, ça avait été annoncé. D'après moi, là, on avait, tu sais, on s'était entendu avec Lou Dort là, quelques jours avant. On savait pas nécessairement qu'on allait faire une transaction comme celle-là. C'est arrivé durant la journée même, mais on avait déjà envoyé Lou Dort. On s'est dit, garde, Lou Dort sera là pour appuyer sur le bouton.
Puis, tu sais, pas de controverse là. Il était heureux, il avait le sourire, c'était parfait. C'était un beau clin d'œil, c'était super. Puis, tu sais, Monsieur Bettman a été meilleur que auquel je m'attendais, tu sais. Puis il a été très bon, c'est juste que l'ambiance n'était pas là, il y avait des problèmes techniques, puis il y avait des choses qui ne fonctionnaient pas, mais bon, à revoir. Puis comme je suis d'accord avec toi, on l'a dit, on l'essaie un an, mais je ne vois pas l'utilité de ramener ça.
Coup de cœur, tu en as eu un pendant ce repêchage.
Mais ça, big time mon ami, big time, big time. Moi là, c'est la sélection du 29e choix Mason West, des Blackhawks de Chicago qui ont transigé pour aller le chercher. Puis là, tout le monde va dire Mason West. Il n'est même pas sûr de jouer dans le national 29e. OK. Mais c'est un gars pour qui j'aimerais qu'il y ait plus d'athlètes qui fassent ce parcours-là. C'est un gars qui joue deux sports de haut niveau au secondaire et qui m'a vraiment fait rire. C'est lors de... Sur certains... Des experts de hockey, là. Quand il a été repêché, tout le monde a dit, bon, OK, c'est un grand bonhomme. Mason West, c'est un gars qui joue présentement au secondaire. C'est un gars de 6 pieds 6. Pensez un petit peu à Tage Thompson. Je ne dis pas que ça va être Tage Thompson, mais au niveau physique, c'est un gars qui est quart arrière aussi pour son école secondaire. Et là, plusieurs experts ont dit, « Hey, il faut qu'il arrête complètement de jouer au football. Là. C'est trop dangereux. Là. Les risques de blessures. » Puis moi, ça m'a fait réagir. Parce que Matthew Schaefer, là, s'est blessé à quoi, lui? Il a manqué son année à quoi? En jouant au hockey. Les risques de blessures, tu en as partout. Ce kid-là veut finir son parcours secondaire. Il veut amener un championnat. Il le fait au hockey. Il veut amener un championnat d'État, l'État du Minnesota, à son équipe de football. Laissez-le jouer au football. Puis il va jouer au hockey aussi. Puis les risques de blessures, ça peut arriver au gym. Ça peut arriver de façon banale. Je comprends le raisonnement. Mais il a déjà annoncé, le hockey va être mon sport numéro un. Je veux me concentrer sur le hockey. Mais il veut finir sa carrière de joueur de football. Tu sais, Anders Lee, qui a été repêché pour la Islanders, avait exactement le même profil, la même école secondaire, Edina High School, au Minnesota. Lui, il n'avait pas annoncé aussi clairement ses intentions, donc il a été repêché en sixième ronde. Mason West a été repêché en première ronde parce qu'il a dit, OK, ça va être le hockey, mais je veux terminer mon secondaire avec mon équipe de football. Moi, j'applaudis ça.
Oui.
Bon, tu sais, puis on voit ça dans d'autres sports, mais au hockey, c'est pas commun de voir un gars qui fait plusieurs sports. Maverick Lamoureux a joué jusqu'à un an ou deux avant son année de repêchage à la crosse et au hockey. C'est tout un joueur de crosse qui aurait pu jouer professionnel à la crosse. Puis lui, une année avant, quand il est arrivé junior majeur, il a dit « OK, j'arrête la crosse à cause des risques de blessure. » Mais Maverick Lamoureux est tout un athlète. Puis il y en a d'autres comme ça. Tu comprends? Bill Zonin, qui a été repêché, a joué avec nous à Laval pour notre association. Il a joué à la crosse puis il a joué au hockey. Il a arrêté bien avant. Fait qu'il y en a d'autres. Mais là, un choix de première ronde, qui est un joueur de football aussi, ben moi, ça m'a fait bien rire parce que je me dis, on est encore dans la vieille mentalité. Il n'a pas dit qu'il voulait jouer à l'université aux deux sports. Il veut finir son parcours secondaire. Laissez-les donc tranquilles, laissez-les faire. Et les blessures, ça peut arriver à n'importe quel moment.
Ben dis-moi donc, Éric, tu attires mon attention, tu piques ma curiosité avec la crosse. Là. Les joueurs professionnels de crosse gagnent-ils bien leur vie?
Majorité, non.
Mais c'est ça. Mais si t'as le choix entre être professionnel à la crosse ou encore au hockey, la décision
n'est pas difficile. C'est une question de passion. Tu sais, je vais revenir à Mason West.
Éric, une question de passion, mais une question de cash aussi, là.
Oui, il y a une question de cash, mais il y a une question aussi dans quel sport tu es meilleur. Je vais t'expliquer. Mason West, là, a eu quelques offres d'universitaires D1 pour jouer au football, mais pas tant. Fait que là, probablement que lui, il s'est dit, moi, je suis meilleur au hockey, je vais y aller avec le hockey. Tu comprends? Il y a ça aussi.
Ben, il l'a dit, là, j'ai choisi le sport dans lequel j'avais le plus de chances de connaître du succès. Là. Il s'est déjà engagé avec l'Université Michigan State pour la saison 2026-2027, mais comme Éric le mentionne, il reste une an avant à l'école secondaire.
Il va aller à Fargo dans les USHL.
Exactement.
Si Texas ou Alabama ou Notre Dame t'es venu cogner à la porte, t'as dit « Monsieur West ».
Ouais, mais là, c'est ça, c'est pas pareil.
On va vous donner une bourse d'études pleine, puis on vous déroule le tapis, puis t'as le NIL où tu es payé. On voudrait vous avoir dans notre programme. Bon, peut-être qu'il aurait pris une décision différente.
Ah, c'est ça.
Mais dans son cas, puis tu sais, je te dis, moi, ce que je dis, c'est, en fait, je vais te résumer. À quel âge que l'athlète doit décider quel sport il veut faire? on en a parlé la semaine passée, des fois on l'impose aux jeunes, mais moi je pense que pour un kid comme lui, laissez-les faire les deux sports. Ça m'a bien fait rire quand je voyais plusieurs bons experts, des gars de hockey, des gars compétents qui disaient hey, « il faut qu'il arrête absolument, là, il faut même pas qu'il joue cet automne ». Je comprends la logique, Tu veux pas risquer que le développement soit freiné un petit peu, mais c'est pas quelques semaines, parce qu'une saison de football, c'est quand même assez court. Tu veux pas que quelques semaines, c'est pas ça qui va faire que son évolution va s'arrêter. D'ailleurs, c'est pas un gars qui va arriver dans la Ligue nationale, probablement pas sa première année ou sa deuxième année qui va être éligible, parce que étant très grand, il va prendre du temps avant de se développer.
Une très belle réflexion que tu amènes là. On va justement sortir là-dessus pour mieux revenir et dire un gros merci à un athlète en particulier. Au retour.
Bonsoir, Montréal, Laval. Je vais vous dire un gros merci d'avoir été présent avec moi ici. Ça a été un long parcours. J'ai travaillé fort. J'ai eu une belle carrière. Mais toute bonne chose a une fin d'après moi. Alors, je veux vous dire merci beaucoup pour toutes ces belles années. Puis je parle à tête haute. Merci beaucoup et je vous aime énormément.
Merci à Jean-Pascal, Éric.
Oui, merci à Jean-Pascal. Quelques minutes après, quelques heures après, son discours avait un petit peu changé. Je dis merci, Jean-Pascal, en espérant qu'il ne tombera pas dans le piège de vouloir revenir pour un ultime combat. Ceci dit, c'est son droit le plus ultime. Là. Tu comprends, il a le droit de faire ce qu'il veut avec sa carrière. Puis s'il veut retourner dans un ring, regarde, il pourra retourner dans un ring. Mais ce que je dis, c'est, écoute, tu as une carrière extraordinaire au Québec comme boxeur. Je sais qu'il y a des gens qui vont prendre que je dis ça, vont écrire « Ouais, mais il y a eu ça, puis il y a eu ça. » Bon, OK. Des erreurs de parcours, tous les athlètes en font, tous les êtres humains en font. Quand Jean-Pascal était dans le ring, il n'a jamais triché personne dans le ring. Tu comprends? Il a donné toujours un excellent spectacle. Puis tu sais, des fois, on connaît des personnalités publiques, mais on ne les a jamais rencontrées. J'ai rencontré Jean-Pascal en privé. Il y a le personnage public, le boxeur, qui utilisait sa personnalité pour vendre des billets. Et tu as l'être humain qui est vraiment un gars articulé, un gars humble, un gars chic. Alors, moi, j'ai ce souvenir-là de ce gars-là. Puis, tu sais, sur le ring, il a dit « c'est probablement terminé », mais quelques minutes après, il dit « écoute, je me donne encore le temps avec une réflexion ». C'est ça le piège de ces athlètes qui ont eu des superbes carrières. Ils ont toujours l'impression « j'en ai encore dedans, je suis encore capable ». Là, il nous a donné l'argument du poids. Peut-être qu'il était dans une catégorie à 200 livres où c'était peut-être trop pour lui. Le Polonais l'a détruit. Et lui disait même « mon équipe a arrêté le combat parce qu'ils sont là pour me protéger, mais je pense que j'étais encore capable de revenir dans le combat ». C'est que c'est là le piège, tu comprends?
Ouais.
Fait que il n'y en a pas beaucoup comme des Jean-Pascal qui ont eu des carrières aussi longues, mais t'es pas le premier, ce serait pas le dernier boxeur qui dit « ben tu sais quoi, je vais revenir après une pause à 43, 44 ans, j'en ai encore dedans ». Moi, j'espère que ça n'arrivera pas. Ouais. Probablement que ça n'arrivera pas, mais j'en profite pour le dire merci.
Ah oui, un gros merci pour cette carrière. C'est une source d'inspiration, quoi qu'on en dise. Là. Mais il reste que... Y a-tu des gens qui ont été informés du nombre de billets vendus pour la Place Belle samedi? Moi, j'ai pas eu d'informations à ce sujet. Tu sais, Jean-Pascal n'attire plus les foules comme il a déjà, jadis, attiré les foules. On va se le dire. Là. À 42 ans, comme tu viens de le mentionner, il a été détruit par le Polonais. Et pour sa santé, d'abord, mais tu sais, comme je l'ai dit tantôt à FX, dans la pratique au bâton, si Jean-Pascal a besoin de sous, là, juste à donner des conférences, puis les gens vont s'arracher ses services, puis un conférencier de cet ordre-là, de cette prestance-là, peut bien gagner sa vie, parce que de s'accrocher pour rien, peut-être le coup de trop, à un moment donné, là, qui va manger. Là.
Ben, il a parlé de son héritage, qu'il veut laisser un héritage, il veut se faire un bon souvenir.
C'est déjà fait, ça.
Je connais pas les finances de Jean-Pascal. Moi, je pense que Jean-Pascal n'a pas terminé dans le monde de la boxe. Il va devenir promoteur, il va devenir un acteur important de la boxe au Québec. Regardez-le aller, tu sais. Il va suivre les traces de Oscar de la Hoya et d'autres. Là. Il va s'impliquer dans le monde de la boxe. Je suis pas convaincu que son désir de continuer, c'est relié à l'argent, même s'il y a probablement un petit peu de ça dans l'équation. Moi, je pense que c'est simplement, comme tous les athlètes, tu penses que tu es encore capable. Tu sais, on en a parlé la semaine passée quand j'étais avec vous autres, les gars. Là. Quand tu es un athlète, là, t'es immortel. Les gens t'adulent. Tu veux pas perdre ce statut-là. Quand t'arrêtes, ben là, t'es t'es plus la saveur du jour. Et tu dois te réinventer. Il y en a qui se réinventent de façon admirable, soit dans les médias ou en allant dans le monde des affaires. Mais c'est pas facile. Tu sais, on te voit comme le champion. Tu veux être le champion, mais c'est pas éternel, ça, malheureusement. Puis c'est un art de savoir quand se retirer. Tu sais, alors, Mohamed Ali a pas su quand se retirer. Il y en a plein comme ça. Alors, ils étaient des athlètes incroyables. Fait que, à suivre. Moi, je pense qu'éventuellement, comme il a dit son entourage, je vais dire, OK, c'est assez, Jean. Peut-être qu'il s'est dit, moi, je vais revenir dans une catégorie de poids un peu plus adaptée pour la mienne, un dernier combat, je sais pas, on verra, sous une carte à quelque part. Mais il faut lui dire merci parce que boxer aussi longtemps, c'est des sacrifices.
Oui, puis il nous a fait vivre toutes sortes d'émotions aussi au courant des 20 dernières années, Jean-Pascal.
Absolument. Moi, un gros merci, Jean. Oui. Merci, Jean, pour ta carrière. Puis...
Mais tu sais, dans quelques années, on va faire le recul et on va dire, OK, où il est dans le palmarès des meilleurs boxeurs? Il est en haut, là, parmi les meilleurs boxeurs du Québec.
Au sommet? Complètement au sommet?
Sur la longue. Ben, il n'est pas loin du sommet pour moi. Puis là, ben, tu pourrais peut-être parler avec des gars comme Ross Amber ou Jeff Lafree qui vont peut-être te donner un petit peu plus d'expertise que la mienne.
Ouais.
Mais tu sais, quand je regarde Jean-Pascal, ce qu'il a réussi à faire, il n'y en a pas beaucoup qui l'ont fait, tu sais. Il y en a qui avaient peut-être plus de talent que lui, mais qui n'avaient pas la discipline. Fait que moi, je te dirais qu'il est facilement dans le top 3. Oui, facilement dans le top 3. Puis après ça, ben, ça reste, c'est subjectif. Tu n'es pas battu contre tous ceux qu'on nomme, tu ne peux pas le savoir, tu comprends? Ouais. Alors... C'est subjectif.
Mais au moins, il a accepté tous les défis qui étaient sur sa route. C'est un boxeur qui s'est jamais défilé, là. Il les a tous acceptés, là.
Exact. Puis tu sais, quand je te dis, il n'a pas triché, oui, il y a eu la controverse avec positif un test de dopage.
Absolument.
Oui, il y a eu quelques petits accros. Bon, il a été. Et finalement, les poursuites ont été laissées tomber par rapport à l'alcool au volant. Mais qui n'a pas fait d'erreur comme ça? Je te dis pas que tout le monde va boire en conduisant. C'est pas ce que je te dis. Ce que je te dis, c'est sur une longue période, ce gars-là, quand il était dans le ring, il a tout donné. Il a tout donné pour son public.
Ouais.
Alors, il était respectueux de son public à ce niveau-là.
Absolument. Bon, là, c'est parce que Georges est entré en studio, ne savait pas que. On avait Éric Auziel sur Zoom, alors il est venu faire le saut à notre ami FX. Et ben c'est ça. On a quand même entendu ce que Éric avait à dire pour terminer son point. Donc, prière de ne pas tomber dans le piège d'un ultime combat. Parlant de piège, il y a un autre athlète qui risque gros, Éric?
Oui, et là, je tiens à préciser, il n'y a aucune accusation. C'est seulement une enquête qui a été déclenchée par le district de la ville de New York sur Malik Beasley, qui joue pour les Pistons, en fait, qui est agent libre, qui était en négociation avec les Pistons pour revenir à un contrat de 3 ans, 42 millions. Ça a été mis sur pause parce que là, il y a une enquête où M. Beasley, alors qu'il jouait en 23-24 avec les Bucks de Milwaukee, le 31 janvier 2024, il y a eu une activité un peu louche sur ce qu'on appelle des paris, des props bets, des paris props. Ça veut dire que tu gages sur des moments dans le match. Et dans son cas, c'était over-under sur le nombre de rebonds. Et là, ben, c'est une des compagnies de paris sportifs qui a levé le drapeau rouge en disant « Hey, ça, c'est anormal, là. » Et là, il y a une enquête. Fait que là, les négociations sont mises sur pause. Il n'est pas accusé. Il est possible qu'il ne soit pas accusé. Mais ce que je te dis, c'est tu vas avoir de plus en plus de ça. Des athlètes, tu n'as pas le droit de gager sur ton sport. On a vu Deontay Porter, des Raptors, est banni à vie. Cette année, plutôt dans l'année, le garde des Heat de Miami, Terry Rozier, a été aussi enquêté. Il n'y a pas d'accusation, il n'y a pas de suspension pour quelque chose qui est arrivé en 2023. Fait que, tu sais, les paris sportifs, pour l'amateur, ça peut être le fun. C'est un beau complément pour regarder des matchs. Mais quand il y a un piège, les athlètes, là, va falloir bien les éduquer parce que, des fois, tu fais des mauvais choix. Quelqu'un dans ton entourage dit « Ah oui, donc, cette game-là seulement, tu ne te feras pas pogner. On va faire un coup d'argent, tu comprends? » Et puis là, ça reste à voir. Est-ce que M. Beasley, Malik Beasley, est vraiment coupable ou c'est tout simplement une enquête? Si c'est juste une enquête là, à tous les procureurs de justice, on peut-tu garder ça sous silence? Parce que là, tu détruis la réputation d'un athlète.
C'est ça le problème. Là.
C'est ça le problème.
Parce que si...
Fait que là, il y a une enquête, il n'y a pas d'accusation.
Ouais.
Quand il y aura des accusations, là, tu le diras publiquement. Enfin, ça, c'est un autre dossier.
Ouais.
Fait que ça, c'est à suivre parce que c'est un gars qui risque de perdre beaucoup d'argent. Et s'il est trouvé coupable ou il y a une accusation, oublie ça, il ne jouera pas dans NBA cette année.
Ah, il était sur le point de s'entendre sur les termes d'un nouveau contrat d'une durée de 3 ans et d'une valeur de 42 millions de dollars.
C'est ça.
Hey, c'est de l'argent.
C'est un gars qui a un petit historique aussi. Là, en 2020, il a plaidé coupable à une accusation de violence. Il a été suspendu 12 matchs, mais il a payé sa dette. Je reviens, parlant de payer dette, parle de paris sportifs. On ne sait pas ce qui s'est passé exactement. Fait que ça, là, même les ligues le savent. Là, les paris sportifs sont là, on n'arrête pas le progrès, mais il y a toujours un envers de la médaille. Alors, il faut vraiment bien éduquer les jeunes qui arrivent dans les ligues professionnelles. Touche pas au gambling. Tu laisses personne t'influencer et te dire, hey, ces fameux props bets là, qui n'ont pas d'incidence directe sur le résultat du match, mais indirectement, oui, ben c'est vraiment un piège à éviter.
Éric Auziel, merci beaucoup encore pour cette excellente chronique. On reprend ça mercredi. En fait, il nous en reste trois. Mercredi, jeudi et vendredi.
Ça passe vite.
Dans la game avec FX et Ben. Un gros merci, Éric. On se voit mercredi.
Oui, merci beaucoup. Ah. Puis bonne journée à tout le monde. On se voit mercredi en studio. Puis demain, ben, on regarde les dollars être jetés par la fenêtre dans la plupart des cas, mais pas tous les cas.
Merci, mon ami.
Salut, Éric.
Bye-bye.